Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Irène Dos Santos, chargée de recherche CNRS. Je suis anthropologue et je fais également partie du laboratoire URMIS. Alors, ce projet me donne l'occasion de revisiter une recherche un peu ancienne déjà que j'ai menée dans le cadre de ma thèse de doctorat en France et au Portugal sur la migration portugaise. Donc, je vais vous parler d'un contexte migratoire qui nous renvoie aux années 50-60 de Portugais, de paysans, surtout portugais, et la figure du paysan est importante, qui donc sont venus dans les années, fin des années 50 et années 60 en France. Le Portugal était alors une dictature, mais c'était quand même plutôt une migration économique. C'était des paysans qui cherchaient finalement à pouvoir accéder à une mobilité sociale dans leur pays, et donc en passant par une migration avec l'idée donc de pouvoir ensuite revenir au pays d'origine et pouvoir acheter des terres, construire une maison et se marier. Le mariage en portugais c'est casar, et donc c'est très proche du terme de casa. Et la casa, la maison, c'est non seulement l'habitation, mais aussi les terres attenantes et les terres cultivées. C'est le premier aspect, cette figure donc du paysan et de la terre reviendra au cours de ce rapide exposé. On est aussi donc dans un contexte migratoire de très forte circulation à partir du milieu des années 70, donc quand il y a eu la révolution des œillets au Portugal, il y a une redémocratisation de la société, et donc les migrants qui étaient venus majoritairement de manière clandestine peuvent retourner au pays, aller construire leur maison de rêve. Voilà une maison de rêve dans le nord-ouest du pays, dans la région du Minho. J'ai choisi cette photo parce qu'on y voit le chou dont je vais vous parler, le fameux chou galicien dont je vais vous parler. Alors, ce chou galicien, il est emblématique de la migration portugaise en France, hein, associé très souvent à la morue. Et ce chou galicien, j'ai cherché donc le terme français. En France, on parle de chou cavalier, le Brassica oleracea, variété viridis. On l'appelle aussi le chou collet, le chou en arbre, le chou fourrager. Et donc en France, c'est principalement une plante fourragère, hein, ça a déjà été dit, sauf dans le sud-ouest de la France, où il est préparé en potée de choux. Et c'est également donc un légume utilisé en Espagne, et notamment ou principalement en Galice, donc dans le nord-ouest de l'Espagne, et donc dans le nord-ouest également du Portugal. C'est un légume qui a une forte valeur nutritive, qui est récolté du printemps jusqu'à la fin de l'hiver, et qui est aussi facile à repiquer. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure de ce contexte migratoire de très forte circulation, il y avait donc ces familles portugaises qui, au moment des vacances d'été, repartaient au Portugal. On peut imaginer que lorsqu'elles revenaient en France après l'été, elles ont transporté avec elles des plantes, des semences et pourquoi pas des graines de choux, voire déjà des petites semilles. Il y a aussi dans ces pratiques donc de familiales où on rapporte en France des aliments, des fruits, des oranges cultivées, les olives, l'huile d'olive, etc. Mais c'est vrai que dans mon travail, je me suis assez peu intéressée à l'époque à ces questions-là. Alors, je voudrais rapidement revenir sur deux aspects. Là, voilà, je vous avais choisi une photo de soupe aux choux qui est préparé donc avec ce chou galicien. Alors donc, je vous disais que ce chou est emblématique de l'immigration portugaise en France, qu'il est associé à des trajectoires migratoires familiales. Et j'ai donc ressorti un petit texte d'une sociologue qui s'est intéressée à ces familles portugaises en France, qui s'appelle Ingrácia Leandro et qui écrivait dans un article publié dans Homme et Migration dans les années 80, un plat portugais, la morue au chou. Elle nous explique que les choux sont cultivés par les Portugais eux-mêmes dans leur jardin, mais ils font de plus en plus leur apparition sur les marchés, notamment dans les régions où les Portugais sont les plus implantés. Donc Villiers-sur-Marne, toute la région autour du bidonville de Champigny, et aussi à Paris, donc dans le 20e arrondissement. Les gens apportent les semences du Portugal et leurs jardins sont remarqués par diverses qualités de choux que les marchands français commencent à mettre aussi sur leurs étalages. Alors il y a cette idée qui apparaît aussi à travers la figure de la gardienne d'immeuble, notamment donc dans le contexte parisien, de ces moments de convivialité entre ces gardiennes d'immeubles et les familles françaises plus bourgeoises autour voilà, de ce partage d'aliments, de plats. Et donc, on peut aussi imaginer une circulation à ces occasions-là. Pardon. Mais il me semble, et je parlais tout à l'heure aussi de défis épistémologiques, c'est que la manière dont on touche à cette question du chou, du légume, ça renvoie quand même davantage à une idée d'affirmation identitaire et d'une identité culturelle très marquée aussi par une certaine pratique d'un nationalisme affirmé en contexte migratoire. Et donc, je pense que là, il serait intéressant de trouver des espaces, et je pensais notamment au jardin partagé, où on pourrait observer en tout cas une sortie d'un certain nationalisme méthodologique. Le deuxième aspect sur lequel je voulais revenir, c'est donc ce chou qui est associé à des mémoires individuelles. Et donc là, je m'intéresse davantage à la question des descendants, puisqu'on voit aujourd'hui certains plats de l'alimentation paysanne portugaise sont réappropriés aussi par les descendants. Il faut savoir que de manière assez récente, ces descendants de Portugais avaient mis à distance l'héritage culturel paysan. Avec une volonté de s'affirmer en tant que franco-portugais dans la société française, mais en allant chercher des éléments de la culture d'origine qui étaient davantage des éléments liés à une modernité, au Portugal urbain et européen. Donc de manière plus récente, on voit apparaître j'ai fait une capture d'écran sur YouTube, une jeune femme, on peut imaginer qu'elle est née en France et qui va filmer la préparation de cette soupe au chou que je vous ai montrée tout à l'heure. Et donc, elle raconte, c'est mon voisin qui a planté ce chou, il ne savait pas ce que c'était. Il n'en voulait pas et moi je lui ai dit, je crois bien que c'est le même chou que celui que ma maman utilisait quand j'étais petite pour faire la soupe au chou. Et donc, il nous les a donnés. Donc, on imagine qu'elle a reçu ses choux et éventuellement, elle les a plantés dans son propre jardin. Ça, on ne le sait pas. Et donc, elle a cueilli quelques feuilles de choux pour préparer cette soupe qui la renvoie donc à son enfance, en France. Alors, cette idée du jardin est très présente dans les pratiques des migrants portugais ici, qui, quand ils sont sortis du bidonville, se sont très vite installés dans des zones urbaines où ils ont réhabilité des anciens logements. Et ensuite, ils se sont aussi installés dans des zones pavillonnaires avec jardins. Et donc, dans ces jardins, voilà, on trouve toujours un potager très cultivé et avec notamment cette présence du chou sur tige. Alors, qu'on voit là, c'est une photo de ma collègue Claire Médard qu'elle a prise donc, à Pessac. touche ça à Pessac, où il y a effectivement une forte présence portugaise. Et donc, ton commentaire m'a intéressée. J'ai repéré ce jardin avec cette plantation de choux galiciens il y a quelques années déjà. Il me semble que des Portugais habitent cette maison. Et donc, ça renvoie aussi à la pratique de l'ethnologue que je suis. Et quand je faisais un terrain en Auvergne, où il y a eu aussi une forte présence portugaise liée à l'usine Michelin, mais donc ça a été un flux migratoire déjà plus ancien, on a eu des pratiques aussi d'insertion dans la société française différentes, liées donc aux caractéristiques locales. En fait, les Portugais sont devenus invisibles. Et lorsque je travaillais sur l'immigration portugaise en région d'Auvergne, le chou était pour moi un élément qui me permettait justement de me dire, tiens, là peut-être demeure une famille portugaise que je vais pouvoir aller interroger. Alors, je vous parlais donc de jardins privés. Et en fait, voilà, je voulais conclure sur la question des jardins partagés. Ça, c'est une photo très, très récente que j'ai fait le week-end dernier, que j'ai prise à Saint-Ouen, dans un jardin partagé, mais aussi cultivé par des familles portugaises. On voit là de nouveau le chou galicien. Alors, pourquoi ces jardins partagés? Parce que j'ai eu le témoignage d'une gardienne d'immeuble à Paris qui expliquait donc que le week-end, elle allait dans des jardins partagés en banlieue parisienne, où elle rencontrait aussi des familles françaises, bobo, et que c'était des moments de partage aussi autour de sa culture à elle, franco-portugaise, et des moments d'échange qui me semblent intéressants. Et là, il me semblerait aussi intéressant d'ouvrir la catégorie des Portugais sur celle des lusophones. De plus en plus en France, les Portugais sont des personnes, des familles originaires des anciennes colonies d'Afrique. Donc, essayer de voir si ces populations ont aussi des pratiques cultivation de ces légumes, puisqu'on les retrouve aussi, de ces légumes, puisqu'on les retrouve aussi, le chou, dans certains plats brésiliens et capverdiens notamment. Et donc, voilà, les jardins partagés me permettent aussi de faire le lien avec un terrain que je fais actuellement à Lisbonne, dans la périphérie de Lisbonne, dans des zones reléguées, où vivent donc là aussi des migrants originaires des anciennes colonies d'Afrique. Et voilà, je saisis votre proposition, Bernadette Lisée, de dire finalement que cette question d'ethnobotanique peut permettre une nouvelle entrée, entrer autrement sur ce terrain lié à la question des mémoires coloniales au Portugal, et de voir à partir de ces jardins partagés comment ces différentes familles de migrants partagent une histoire commune, une idée de ce qu'on appelle aujourd'hui de la lusophonie, de l'appartenance à un espace global qui est l'espace lusophone, etc. Voilà, je vous remercie.